Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Avis de tempête, hors série. Une tempête peut en cacher une autre. Lutter contre l'extrême droite, ici et maintenant. Plutôt Hitler que le Front populaire. On a pas mal lu cette phrase ces derniers temps. Les chercheuses savent pas trop si elle a réellement été prononcée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande prétention de l'extrême droite est son plus grand mensonge. C'est l'idée qu'elle serait hostile au capitalisme. Le fascisme naît en Italie en 1919. Mussolini crée une milice patronale, c'est-à-dire une sorte de bande armée chargée de briser le mouvement ouvrier italien par tous les moyens. Ce sont ces bandes qui brisent des grèves, brûlent des maisons du peuple et assassinent des syndicalistes. Bref, un parti milice au service de la bourgeoisie pour réduire à néant la capacité d'auto-organisation des classes exploitées et opprimées. Aujourd'hui, l'extrême droite prétend avoir des origines dans les classes populaires et porter le « bon sens ouvrier », entre guillemets. Si la situation n'était pas si dramatique, ça nous ferait bien rire. Si l'on regarde le programme de l'extrême droite, rien ne va dans le sens des intérêts des classes populaires, racisées ou non. L'extrême droite, au pouvoir, c'est un État capitaliste fondé sur une police politique omniprésente, agissant dans l'arbitraire le plus total, un embrigadement de la population dans le cadre d'organisations fascistes de masse, et notamment de la jeunesse, une destruction de toutes les formes de contre-pouvoir, et notamment ouvrières, syndicales, légales, associatives, journalistiques, artistiques, et un usage intensif des appareils d'État pour diffuser son idéologie. C'est aussi une certaine conception de la vie en société, basée sur la hiérarchie, la brutalité, la domination et l'exclusion. Et donc on en vient à cette dissolution. On parle d'un coup de poker, qui est celui d'un pyromane complètement hors sol et détesté de tous. On apprend que le lendemain de l'annonce de la dissolution, Emmanuel Macron répond à un grand patron qu'il prépare ça depuis des semaines et qu'il est ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Macron se dit, malgré tout ce que j'ai fait, malgré la détestation dont je suis l'objet, malgré la réforme des retraites, la réforme chômage, la défaite aux européennes, au second tour, les Françaises et les Français préféreront voter pour moi plutôt que pour l'extrême droite. Si j'organise les législatives suffisamment tôt, après les européennes, pour ne pas laisser le temps à la gauche de s'organiser, et en créant les conditions de leur division, alors je peux remporter les législatives. Il se dit, les Françaises vont venir voter pour nous en nous détestant, en se détestant peut-être, en haïssant par tous les pores de leur peau ce geste que nous les forçons à faire. Son pari, c'est que le 7 juillet, il aura sa majorité absolue à l'Assemblée. Sa responsabilité historique est gravissime. Notre colère est immense. Le calcul est d'un cynisme absolu. Macron est prêt à céder le pouvoir à l'extrême droite pour mieux le reprendre. Plutôt Hitler que le Front populaire. Plutôt le Rassemblement national que le nouveau Front populaire. Voir Jordan Bardella devenir Premier ministre est envisageable. Est-ce que le RN, au pouvoir pendant 3 ans, a le temps de voter des lois extrêmement douloureuses pour une partie de la population? La réponse est oui, oui, oui. Un gouvernement qui dispose d'une majorité à l'Assemblée peut rendre la vie insupportable. Pour les sans-papiers, les personnes racisées, les musulmanes, les classes populaires, les personnes queer, les militantes. La liste est longue et non exhaustive. Les conséquences, imprévisibles. J'entends beaucoup parler de malentendus. Comme quoi les classes populaires ou moyennes inférieures qui votent RN sont mal informées, n'ont pas conscience de à qui elles donnent leur voix. Déjà sur le racisme, il n'y a pas de malentendu. Bien que ce ne soit pas suffisamment rappelé ces derniers jours au sein des médias dominants, la population française connaît ce qui constitue la colonne vertébrale du Rassemblement national. Les fameux 3 I. Immigration, insécurité, islam. Sur la question sociale, les électeurs du RN n'ont peut-être pas capté qu'elles votaient contre leurs intérêts. Ici, c'est le constat d'un échec de la gauche dans la lutte des imaginaires. Dans l'univers néolibéral, les classes populaires n'ont pas de perspective de progrès social. Une fois que tu adhères au paradigme néolibéral, ce qu'il te reste, c'est le risque de la dégradation sociale. C'est de tomber un peu plus bas. Donc ces classes n'adhèrent pas à des propositions politiques qui correspondraient à un progrès, car elles ne pensent pas qu'un progrès soit possible. C'est un vote de résignation. Ce qui est en jeu, c'est une certaine vision de l'économie qui dicte, en termes d'imaginaire politique, ce qui est possible ou non. Il va y avoir un sentiment d'impossibilité vis-à-vis de certaines réformes économiques proposées par exemple par LFI. Ces électeurs voient l'économie comme un jeu à somme nulle, voire négative. Il n'y a pas de progrès possible, il y a même cette idée très ancrée du déclin. Les ressources baissent et cette vision économique produit du fatalisme. Nous sommes destinés à perdre. Il y a tout un côté nostalgique qui est lié à ça, la France coloniale, la belle époque. Si on est dans cette logique-là, l'attente que l'on peut avoir vis-à-vis des décideurs, c'est la préférence nationale. On demande à être à l'abri des pertes. La stratégie politique du RN, c'est de segmenter les classes populaires sur des critères racistes. La question du racisme s'articule avec une vision plus générale du fonctionnement de la société, de l'économie, etc. Pour pouvoir dire à une fraction des classes populaires et moyennes inférieures, pas d'inquiétude, si on donne moins aux classes populaires racisées, vous aurez logiquement davantage. Ce raisonnement, il est racialisé, raciste et dépourvu d'imaginaire sur la possibilité d'une sortie, voire juste d'une simple réforme du système capitaliste. Alors on fait quoi ? Il faut se raccrocher à ceci. Le pire n'est jamais certain. Et rien n'est joué. Depuis l'annonce de la dissolution, passé la stupéfaction initiale, le courage nous est revenu. Des assemblées antifascistes se sont tenues, des manifestations spontanées ont quadrillé le pays. Des unions se sont faites, des tags ont fleuri, des prises de parole inattendues se sont fait remarquer. Profitons du chaos provoqué par l'inconséquence de Macron pour reprendre la main. Ces dernières années nous ont donné 1000 illustrations que le pays ne veut pas de la politique de Macron. Les gilets jaunes, réforme des retraites, les révoltes après la mort de Naël, etc. Il y a dans ce pays des personnes qui n'acceptent pas le statu quo autoritaire de Macron et qui continueront de le faire savoir. C'est pas dans nos habitudes, ni dans notre culture politique, et malgré tous les désaccords, le 30 juin, voter pour le nouveau Front populaire. On connaît par cœur les limites de la démocratie représentative, on va pas les rappeler une énième fois ici. Malgré ça, on reste quand même convaincu qu'un gouvernement d'union de gauche sera toujours incomparablement mieux qu'un gouvernement d'extrême droite ou macroniste. Donc si on a un message à faire passer, c'est celui-là. Ne cédons pas à la résignation. Continuons de nous mobiliser et de nous retrouver. Organisons des actions, développons des médias indépendants, des podcasts, faisons vivre la solidarité. Bref, refusons le monde sinistre qu'il nous impose et soyons force de proposition. Pendant la Résistance, le poète René Char écrivait « Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager, afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Soyons prêtes. Une tempête peut en cacher une autre. »
vite.